RTS. Vous le savez, vous, pourquoi ? Pourquoi les abeilles font du miel ?
Alors, les abeilles mellifères font du miel pour stocker de la nourriture. Elles le font principalement pour stocker de la nourriture pendant l'hiver, parce que la ruche reste active pendant l'hiver, la reine survit à l'hiver, et puis même si l'activité est un petit peu réduite en hiver, les abeilles sont là, elles sont réveillées, elles sont actives, elles doivent se nourrir pour maintenir leur activité.
Microsciences, un podcast de la RTS. Bienvenue dans Microsciences et dans un épisode doux et sucré et plein de fleurs et d'abeilles. C'est Christophe Prat qui va nous ouvrir les portes d'un monde à six pattes et deux antennes. Il est collaborateur scientifique pour InfoFauna, l'institution qui s'occupe des bases de données faunistiques et de la conservation de la faune en Suisse. Il est spécialiste des abeilles sauvages et il en connaît un rayon sur les abeilles, le miel et les fleurs.
Alors la fleur produit deux choses très différentes, le nectar et le pollen. Le miel, c'est du nectar concentré. Donc elles vont ramener des grandes quantités de nectar dans la ruche. Et puis en utilisant leurs ailes, elles vont évaporer ce nectar pour concentrer, pour enlever l'eau, pour concentrer le sucre. Ce qui fait que la consistance change, ça devient plus solide et parfois ça cristallise même et ça forme le miel. Et il n'y a pas que le nectar, il y a aussi en été la mielée du puceron. Donc les pucerons qui sont sur les arbres, qui produisent un liquide très sucré parce qu'ils se nourrissent de sève des arbres. Et les abeilles vont également ramener ce miel-là dans les ruches pour en faire du miel.
Et comme nous, les abeilles font des réserves pour passer l'hiver.
Alors il faut savoir que le nombre d'abeilles qui se trouvent dans une ruche, ça va fluctuer au fil de l'année. Il y en aura beaucoup plus pendant l'été. Le nombre va un tout petit peu diminuer après en fin d'été pendant l'hiver. Puis il y a une partie de ces abeilles qui vont survivre pendant l'hiver. Elles vont rester actives en hiver pour assurer que la ruche ne gèle pas. Et elles ont besoin donc d'une nourriture pour rester actives pendant l'hiver.
Et nous, on pique ce miel aux abeilles.
Alors oui, on enlève une grande partie des ressources de nourriture de la ruche qu'on doit parfois remplacer avec du sucre pour que les abeilles aient suffisamment de nourriture ensuite pour l'hiver.
Eh ben oui, parce que la production de miel sur une saison, elle n'est pas extensible.
Elles sont quand même limitées par ce qu'il y a autour de la ruche. Elles sont limitées par la saison. Donc non, on ne peut pas simplement prendre et puis elles vont le remplacer. On doit donc nourrir les ruches après avoir pris le miel. Pas toujours, mais dans certains cas, ça dépend quand on prend le miel, ça dépend combien on en prend avec du sirop. Mais toutes les abeilles ne font pas du miel. En fait, il n'y en a qu'une qui fait du miel. Chez nous, en tout cas, c'est Apis mellifera, donc l'abeille mellifère ou l'abeille domestique. Et les 630 environ autres espèces indigènes en Suisse ne font pas de miel.
630 espèces d'abeilles ? Vous avez bien entendu. Et une seule espèce, l'abeille domestique, fait du miel. Les autres sont des abeilles sauvages. On en voit souvent, sans le savoir.
Il faut savoir que les populations d'abeilles domestiques ou mellifères, c'est celles qui sont maintenues par les apiculteurs. Il y a quelques colonies férales, échappées ou sauvages qui vivent dans les forêts, mais c'est minoritaire. La grande majorité des colonies, elles sont maintenues par les apiculteurs. On sait plus ou moins combien il y en a en Suisse, et le nombre est assez important. Et comme chaque colonie renferme au plus fort de l'été jusqu'à 30 000, 40 000 abeilles dans une seule ruche, dans une seule colonie, ça fait un nombre très très important. Donc si on se balade dans un paysage de basse altitude de Suisse, à peu près une abeille sur deux, voire plus, 8 abeilles sur 10 vont être des abeilles domestiques, et puis seulement quelques abeilles vont être des abeilles sauvages.
Alors je ne sais pas vous, mais moi j'ai parfois de la peine à faire la différence entre les abeilles, les guêpes et les chiens de traîneau.
Guêpes, regroupe énormément d'insectes différents. En fait, la plupart des hyménoptères, c'est l'ordre dans lequel on place les abeilles, les guêpes, les fourmis. Bah, la plupart des hyménoptères qui ne sont pas des abeilles, on va les appeler des guêpes. Il y a des guêpes parasitoïdes qu'on peut utiliser comme auxiliaires dans l'agriculture, qui vont parasiter d'autres insectes. Il y a des guêpes qui sont plutôt prédatrices. Il y a toutes sortes de guêpes différentes. Il y a aussi les guêpes jaunes et noires qui nous embêtent quand on pique-nique en été. Ce sont des guêpes sociales qui vont faire des colonies sociales également. Les abeilles, la principale différence, c'est qu'elles se nourrissent de pollen.
Donc, les abeilles sont végétariennes. Et les chiens de traîneau ont quatre pattes et une truffe. Mais elles font quelle taille, ces abeilles sauvages ?
Certaines sont grandes, très grandes même, comme les bourdons ou certaines zones, mais ce n'est pas la majorité. La plupart sont un peu plus petites, plus fines. Beaucoup de gens vont penser qu'il s'agit de fourmis ou de guêpes. 4 mm pour les toutes petites, elles sont assez fines. Et puis les plus grosses, là, elles font plus de 2 cm.
Oui, mais alors comment je fais pour les reconnaître à coup sûr ?
On peut donner un truc infaillible, c'est que si on voit quelque chose qui ressemble à une guêpe ou une fourmi ou un peu une abeille, donc avec 4 ailes, avec... des antennes et qui récoltent du pollen, là on est certain que c'est une abeille parce qu'il n'y a pas d'autres organismes insectes qui récoltent du pollen. Les papillons vont visiter les fleurs mais vont jamais récolter du pollen. Les guêpes vont aussi visiter les fleurs mais ne récoltent pas du pollen. Mmh. Et très souvent elles le font avec ce qu'on appelle des brosses à pollen. Là on la voit sous l'abdomen. Donc à partir du moment où on voit une structure sur le corps qui est couvert de pollen et où l'insecte utilise activement cette structure pour récolter le pollen, là on est certain qu'il s'agit d'une abeille. C'est le truc le plus simple que je peux donner.
Donc, elle récolte du pollen et du nectar. Mais si les abeilles sauvages ne font pas de miel, elles font quoi alors avec ce nectar ?
Ben, elles se nourrissent sur les fleurs, mais en fait elles ont déjà beaucoup moins besoin de passer des périodes de mauvais temps à l'intérieur de leur nid et d'avoir des réserves de nourriture, et surtout, elles ne passent pas l'hiver. C'est ça qui fait la grande différence. Le miel est principalement une nourriture pour l'hiver. En fait, elles ont, pour la plupart d'entre elles, un seul pic d'activité, une seule période d'activité, parfois au printemps, parfois en été, où on va voir les abeilles, les adultes. Et puis après, pendant l'hiver, en général, c'est une larve qui va rester dans le nid et qui va passer la mauvaise saison. Dans la plupart des cas, les adultes vont mourir pour les abeilles sauvages. Alors, il y a quelques petites exceptions. Il y a certaines abeilles qui vont hiverner à l'état d'adulte, mais elles ne sont pas actives. Elles sont vraiment en léthargie, elles n'ont pas besoin d'énergie, elles n'ont pas besoin de se nourrir, elles vont être complètement inactives pendant plusieurs mois. Et puis, il y a une autre exception, c'est les bourdons, qui sont des abeilles sauvages, qui vivent en petites colonies, plus petites que l'abeille mellifère, avec des colonies qui ne vont pas survivre l'hiver. Et en fait, à la fin de l'été, les colonies vont stopper et elles vont produire de nouvelles reines et de nouveaux mâles. Et après fécondation, les nouvelles reines vont passer l'hiver pour recommencer le cycle l'année suivante.
Et ces petits paquets de pollen, si typiques des abeilles mellifères et des abeilles sauvages, à quoi servent-ils ?
Le pollen, c'est la protéine, et le nectar, c'est les hydrates de carbone. En fait, l'un sans l'autre ne fonctionne pas, aussi bien pour les abeilles mellifères que pour les abeilles sauvages. Elles ont vraiment besoin des deux. Je trouve toujours fascinant que la fleur produise en fait tout ce qu'il leur faut, la protéine et le nectar, pour former une diète vraiment complète.
C'est mignon, c'est adorable. Mais elles piquent, ces abeilles sauvages ?
Alors les abeilles piquent, c'est uniquement les femelles qui piquent. Le dard est en fait modifié à partir de l'ovipositeur chez les hyménoptères, donc la structure qui permettait à l'ancêtre des abeilles et des guêpes de pondre les œufs. Donc c'est que les femelles qui vont piquer. Les abeilles sauvages piquent aussi, pour la plupart, c'est beaucoup moins fort que la piqûre de l'abeille mellifère. L'abeille mellifère a un dard muni de petits harpons qui va en fait rester dans la peau et qui va continuer d'injecter du venin encore quelques secondes après la piqûre. Ça fait des très grandes quantités de venin et ça fait beaucoup plus mal. Le venin est très semblable chez les abeilles sauvages, mais les quantités sont beaucoup plus faibles. Et puis dans la règle, ça fait beaucoup moins mal. Mais il y a quelques exceptions. Les bourdons, ça pique très très fort. Ça fait mal. C'est une piqûre qui dure un tout petit peu moins longtemps, mais sur le moment, c'est très très violent.
Et pourquoi tant d'agressivité ?
De manière générale, les abeilles piquent uniquement quand elles se sentent menacées. Il y a des petites différences entre le mode de vie des abeilles. Les abeilles sociales qui ont une colonie, elles ont plus tendance à défendre leur colonie. Et dans le cas des bourdons, si on met le pied sur un nid de bourdon, ça arrive assez rarement, c'est dans les prairies, là, il y a un risque et une agressivité, puis qu'on se fasse piquer un tout petit peu. Par contre, au niveau des abeilles mellifères, c'est différent. Là, il y a des moments où les abeilles sont un tout petit peu plus nerveuses, ou si on se trouve juste sur le flux d'abeilles qui rentrent dans la ruche, et qu'il y en a une ou deux qui commencent à se prendre dans les cheveux et piquer, alors là, ça peut déclencher une réaction où elles deviennent agressives, et puis on a plusieurs piqûres, et ça peut être assez dangereux. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va jamais, jamais observer chez les abeilles solitaires. Pour qu'on se fasse piquer par une abeille solitaire, il faut vraiment pas mal de malchance, soit si on la prend dans les mains, soit si elles sont prises entre les vêtements et la peau, elles se sentent menacées et là elles peuvent piquer, mais c'est rare.
Me voilà rassurée. et ça me donne envie de les rencontrer. Alors, pour trouver des abeilles domestiques, je vais m'approcher d'une ruche. Mais pour voir des abeilles sauvages...
Il y en a beaucoup qui nichent simplement dans le sol. Parfois, au printemps, on voit des grandes agrégations d'abeilles qui volent autour d'un petit endroit sableux. C'est souvent une abeille, la collette des saules, qui forme de grandes agrégations. Et puis là, on peut voir des centaines de mâles qui tournent autour d'un petit endroit sableux. C'est toujours un spectacle assez intéressant à voir. Et il y en a d'autres qui nichent ni dans le sol, ni dans des tiges ou dans des trous. Il y en a qui nichent uniquement dans des coquilles d'escargots abandonnées. Alors là, si on arrive à les voir, c'est toujours un petit spectacle, parce qu'elles vont mettre leur nid à l'intérieur des coquilles d'escargots. Il y en a même une qui fait plus fort encore, elle fait son nid dans les coquilles d'escargots, et puis après, elle va complètement bloquer l'accès de la coquille pour pas que d'autres organismes y rentrent. Et puis quand elle a terminé, ben, elle prend des brindilles, des aiguilles de pin, et puis elle forme un petit tipi sur la coquille d'escargot pour la camoufler. Mmh. Et on voit passer cette abeille qui fait des allers-retours avec ses longues aiguilles de pin, c'est très très particulier.
Ces abeilles sauvages m'intriguent. Pourquoi n'a-t-on pas réussi à les domestiquer? L'abeille sauvage serait-elle à l'abeille mellifère ce que le zèbre est au cheval? Indomptable?
Déjà, la première chose qu'on est obligé de dire, c'est que le fait de savoir si on a vraiment domestiqué Apis mellifera est quand même une thématique un peu trop controversée. Et ce n'est pas mon domaine de recherche, donc je ne vais pas trop m'avancer, mais la domestication, c'est quand on sélectionne activement certains traits. On a sélectionné certaines races, la fameuse Carnica, qui n'est pas indigène en Suisse, mais qui vient de pas très loin, d'Europe centrale, qui était plus douce, qui produit plus de miel que la sous-espèce qu'on avait en Suisse, l'abeille mellifère noire. Donc là, c'est une certaine sélection, mais ce n'est pas une sélection de traits, c'est plus une sélection d'une certaine race. Vraiment, une sélection active de traits, ça s'est fait dans certains contextes, c'est beaucoup plus rare, et c'est assez difficile avec les abeilles mellifères, parce que la reproduction de l'abeille mellifère, c'est quelque chose de très compliqué, la fécondation des reines, et pendant très très longtemps, on n'a pas agi directement sur cette sélection. Donc il n'y a pas vraiment eu une longue domestication comme pour les autres espèces domestiquées.
Donc en gros, l'abeille, même domestique, ne donne pas la papate ou l'antenne, même si on lui donne un sucre.
Exactement. Donc ça, à ma connaissance, ce n'est pas quelque chose qu'on a fait. En tout cas, pas quelque chose qu'on a fait jusqu'à assez récemment. L'histoire de l'apiculture, ce n'est pas quelque chose qu'on a vraiment fait. La deuxième chose, c'est que les espèces sauvages, on peut très très bien les maintenir dans des conditions artificielles. Et en fait, c'est un peu ce qu'on fait avec l'abeille mellifère. On peut prendre un essaim, c'est ce qui se fait encore dans diverses régions du monde, on prend un essaim sauvage, on le met dans une ruche, et puis on le maintient jusqu'à ce qu'on récolte du miel, ou qu'il se divise, qu'on le multiplie. On peut faire la même chose avec les abeilles sauvages. Simplement, il y a relativement peu d'intérêt à le faire, puisque justement, elles ne produisent pas de miel. Mais on le fait, par exemple, pour la pollinisation. On peut maintenir des abeilles sauvages dans des bambous, ces hôtels à insectes qu'on voit un peu partout, et puis on peut mettre dans les vergers au moment de la floraison pour la pollinisation des vergers. C'est pas une domestication, mais c'est quelque chose qui ressemble à ce qu'on fait avec l'abeille mellifère, qu'on peut tout à fait faire avec les abeilles sauvages. On fait ça également avec les bourdons pour la pollinisation de certaines cultures en serre, notamment la tomate dans certaines régions. Et là, on peut commander des colonies de bourdons qui viennent par la poste, on les libère dans les serres et ça fonctionne très 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 bien.
Comme de nombreux insectes, les abeilles sauvages sont très actives dans la pollinisation. Et partout dans le monde, les insectes pollinisateurs sont en danger. Les abeilles sauvages aussi?
Malheureusement, je pense qu'on peut dire oui. C'est des raisons qui sont différentes des dangers qui pèsent sur l'abeille mellifère. On est beaucoup plus dans une thématique de déclin de la biodiversité, de la même manière qu'on parle du déclin des oiseaux, des papillons, des mammifères sauvages. Pour les abeilles sauvages, ce sont les mêmes facteurs. Donc c'est vraiment la destruction des habitats, le manque de fleurs dans les paysages, et ce sont ces facteurs qui poussent à la régression des espèces d'abeilles sauvages.
Les abeilles mellifères sont pour leur part menacées par les pesticides et le varroa, un parasite. Mais d'un autre côté, ces abeilles mellifères domestiques sont bien plus nombreuses que les abeilles sauvages. Seraient-elles en compétition?
Alors, probablement dans une certaine mesure. C'est une thématique qui est délicate, qui n'est pas facile à étudier non plus, et qui dépend énormément des contextes. Donc ça dépend où, ça dépend quand. Par exemple, au printemps, lorsque tous les arbres fleurissent, on arrive à la fin de la floraison des érables en ce moment, ça fait une quantité absolument gigantesque de pollen et de nectar, et là, il est peu probable qu'il y ait une compétition très forte en ce moment. La compétition, elle est vraisemblablement beaucoup plus forte en été, lorsque les paysages ont beaucoup moins de fleurs, le colza a terminé de fleurir, les prairies sont fauchées, et là, il ne reste plus beaucoup de fleurs, les abeilles en ont toujours beaucoup besoin, et puis à ce moment, on pense que c'est là que la compétition peut être la plus forte, en fait. Donc les espèces d'abeilles sauvages qui ont besoin de fleurs en plein été sont probablement plus sensibles à la compétition.
Et il y a aussi le dérèglement climatique.
Alors c'est compliqué, le changement climatique agit sur différents niveaux. De manière générale, les abeilles aiment quand il fait chaud. Et si on prend un véhicule, on se déplace de Genève vers le sud, bah, le nombre d'espèces d'abeilles qu'on va rencontrer va augmenter. Et chaque année, au sud du Tessin, à Genève, on voit arriver de nouvelles espèces depuis le sud. Et ça, c'est un impact du changement, du réchauffement climatique, qui fait que des espèces méridionales sont en train de remonter vers la Suisse. Et ça, voilà, quelque part, c'est positif, ça fait plus de diversité. Donc, à toute autre chose étant égale, une température légèrement élevée va apporter plus de diversité d'insectes et d'abeilles, parce que ces groupes sont thermophiles. Maintenant, il faut faire très attention, parce que si des espèces du sud vont remonter, ben, les espèces qui sont adaptées au froid et aux montagnes, elles vont en souffrir. Et puis, on a déjà certaines espèces alpines, on voit que ces espèces remontent, elles doivent chercher des refuges à plus haute altitude parce que les étés sont plus chauds, plus secs, il y a moins de fleurs, peut-être pour les bourdons, pour certaines espèces. On a plusieurs espèces alpines qui ont disparu du Jura. On sait qu'elles étaient présentes jusqu'en 1990 dans le massif du Jura, et elles ont disparu parce que les étés sont trop chauds, trop secs, il n'y a plus assez de fleurs. Et ça, c'est une tendance qui va se renforcer probablement. Et la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui est plus important? Ces nouvelles espèces qui viennent du sud, qui sont vraisemblablement très largement répandues en Europe méditerranéenne, ou alors ces espèces alpines qui font quand même la spécificité de la faune suisse et qui se trouvent peut-être pas ailleurs en Europe ou peut-être uniquement tout au nord de la Scandinavie. Et là, c'est des espèces souvent pour lesquelles on a une forte responsabilité et qui caractérisent vraiment notre pays, nos paysages alpins. Et de perdre ces espèces, ce serait très grave.
Si on les protège, ce n'est pas pour garantir la pollinisation?
On pourrait dire oui, elles sont super importantes pour la pollinisation, mais ce n'est pas entièrement correct. On sait que les systèmes de pollinisation ont besoin de différents types de pollinisateurs, des abeilles domestiques, des abeilles sauvages, des papillons, des mouches, pour que ces pollinisateurs soient actifs par toutes conditions, sur tout type de fleurs. Mais c'est un argument qui ne suffit pas à justifier la protection des 630 espèces d'abeilles sauvages de Suisse. Et là, on doit être franc, les espèces menacées, elles sont généralement très rares, elles sont confinées dans des habitats qui sont très restreints. Sans elles, on doit être vraiment honnête, le système de pollinisation fonctionnerait aussi. Donc on n'a pas besoin des espèces rares et menacées pour la pollinisation. En fait, si on doit les conserver, bah, ça s'inscrit dans une optique globale où on s'engage à préserver notre biodiversité, à préserver nos espèces, et ça passe aussi par la conservation d'espèces dont on n'a pas nécessairement besoin. Ça peut être des espèces d'oiseaux, de papillons, d'abeilles, et on ne doit pas toujours réfléchir au rôle qu'elles remplissent, mais simplement à notre responsabilité de préserver ces espèces sauvages.
Ne serait-ce que pour le plaisir des yeux et la richesse de la biodiversité, les 630 espèces d'abeilles sauvages suisses méritent d'être protégées. Mais qui doit les protéger? Moi, je peux faire quelque chose?
Alors, la chose principale qu'on peut faire, c'est de penser fleurs. Les abeilles sauvages, les abeilles mellifères aussi d'ailleurs, ont besoin de fleurs dans les paysages. Et on pense que c'est vraiment la cause principale de leur déclin, c'est la diminution des fleurs. Et il y a beaucoup de gens qui vous le disent, ah, mais il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y avait beaucoup plus de fleurs dans les prairies, il y avait beaucoup plus de fleurs sur les talus de route, plus de fleurs dans les jardins. Et la diminution des fleurs est un facteur très important. Et là, on peut agir directement en mettant des fleurs, vraiment plus ou moins partout dans nos jardins, en choisissant des espèces indigènes, en remplaçant gazon, tuya par des aménagements avec des fleurs indigènes, avec des petites rocailles, des cailloux. Et puis là, les abeilles vont revenir d'elles-mêmes, que ce soit dans la zone urbaine, que ce soit en dehors des villes, plus ou moins partout. Ensuite, on peut insister pour que cette même approche ait lieu dans d'autres endroits, par exemple les talus de route, essayer de ne pas toujours les faucher, encourager les communes, dans la mesure du possible, à laisser des zones fleuries qui vont être bénéfiques pour les abeilles.
Les fleurs appartiennent plus encore aux abeilles qu'à l'homme, disait Pythagore. Le miel aussi, d'ailleurs. À nous de planter quelques graines pour cohabiter avec les abeilles sauvages et les abeilles mellifères.
Pourquoi je n'ai que deux bras ? Que se passe-t-il quand je dors ? Le zèbre, est-il blond avec des rayures noires ou noir avec des rayures blanches ? Les virus sont-ils utiles ? Dois-je me remettre au sport ? Qui m'enverra la prochaine question de microscience ?
Si ce podcast vous plaît, faites-lui un buzz sur votre réseau social préféré. Abonnez-vous sur PlayRTS, par exemple. Et si vous avez une question qui trotte dans votre tête, envoyez-la nous sur microscience@rts.ch. Microscience en un seul mot et au pluriel. Au royaume de Microscience, il y a Camille Dupont-Lahitte, coproductrice et récolteuse de podcasts. David Golan, réalisateur et élaborateur de miel à écouter. Jérôme Nussbaum, butineur d'habillage musical. Et Andrea Glanville, attachée de production très sociale. Et moi, c'est Uma Camis, journaliste scientifique et ouvrière de Microsciences.